Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Mercredi, c'est cinéma dans le réveil culturel et ce matin, on va parler d'un duo que tout le monde connaît depuis au moins 90 ans, Laurel et Hardy. Mais c'était déjà qui Laurel et c'était qui Hardy ? Qui était le gros et qui était le petit ? Non, en réalité, je plaisante. Je suppose que la majorité d'entre nous sait toujours qui est qui dans le duo Stan Laurel et Oliver Hardy. Aujourd'hui sort au cinéma Stan et Holly. C'est un film réalisé par le Britannique John Baird qui revient sur la fin de la carrière du duo comique Laurel et Hardy. Et on en parle ce matin avec Roland Lacourbe, chercheur, journaliste et auteur de la biographie de référence éditée en France chez l'Archipel consacrée à Laurel et Hardy. Bonjour tout le monde. Merci de votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter le matin tôt à la radio ou en ligne ou en podcast. Le Réveil culturel est préparé avec l'aide de Sophie-Catherine Gallet, réalisé par Vincent Abouchard, avec à la prise de son ce matin Cédric Chatelut.
Le Réveil culturel, mercredi, cinéma.
Say, do you know what? We forgot to serenade her.
Well, let's do it now.
Cette musique que tout le monde connaît, vous la connaissez bien, Roland Lacourbe. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Laurel et Hardy, donc cette biographie sortie qui vient de
75,
une des premières donc, et que vous avez augmenté et qui ressort à l'occasion justement de la sortie de ce film qui parle de la fin de la carrière de Stan et Holly. Alors, vous avez vu le film, d'abord, dites-nous ce que vous en pensez.
Eh bien, bonjour d'abord. J'aime beaucoup le film. Je trouve que c'est le plus beau et le plus émouvant des films de Laurel et Hardy, tout simplement. Laurel et Hardy n'ont jamais été émouvants dans leur œuvre, mais les personnages eux-mêmes sont émouvants. Et quand on les connaît un petit peu mieux, comme je les connais, j'étais à leur rencontre, le film rend, traduit très exactement le sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de ces personnages à la fin de leur carrière.
Et pourtant, c'est pas ce qu'on appelle un biopic, hein, puisque ce film se concentre sur une année charnière dans la vie et dans la carrière, surtout de ce duo de comiques. C'est l'année où ils vont se rendre compte que c'est fini pour eux, que le succès, ils n'auront plus le succès qu'ils ont connu presque par accident dans le passé.
Tout à fait. Bon, accident, je ne dirais pas ça. Il y a quand même du talent derrière.
Mais... Il y a du talent, mais personne ne s'attendait à ce que ce duo fonctionne, à commencer par Laurel et Hardy.
Oui, c'est très mystérieux, on va peut-être y revenir, mais ce que je veux dire sur le film, c'est que sous le prétexte de montrer une très courte séquence de leur vie commune, en fait, qui est pratiquement totalement inventée, parce que le bouquin qui est à l'origine n'est pas du tout explicite quant aux événements qui se sont déroulés dans cette période dans leur vie. Ce qui est très astucieux, c'est que les auteurs, aussi bien le scénariste Jeff Pope que le réalisateur, sont avant tout des grands amateurs de l'œuvre de Laurel et Hardy. Et donc, ils ont su, tout en montrant ce passage très difficile de leur vie, parce que c'est vraiment le champ du cygne, quoi. Ouais. Ça va être la fin dans peu de temps. Eh bien, ils ont émaillé toute cet étalage dramatique, mélodramatique, de gags, d'énormes gags qui sont empruntés à leur film.
Ouais, c'est un hommage aussi astucieux à tout ce qu'ils ont fait.
Tout à fait, absolument.
Mais dans ce film, Stan et Holly, qui sort donc aujourd'hui, on est en 1954, ils n'ont plus tourné ensemble de films depuis déjà quelques années. Le dernier, c'était en 1951, je crois.
51, à Tolka, en France, oui.
Ouais,
c'est une catastrophe.
On peut pas parler de succès. Et là, ils essayent de rebondir en Angleterre.
Oui, alors ce qu'il faut souligner, c'est que l'agent qui fait appel à eux, qui s'appelle Bernard Delmont, ils l'ont connu en 47. En 47, ils sont oubliés du public. En 47, ils ont fini les 8 films qu'ils ont tournés pour la Fox et la Metro, qui sont des catastrophes. L'Amérique s'est détournée d'eux. Les grandes vedettes à l'époque, c'est Bud Abbott et Lou Costello. Donc ça n'a plus rien à voir, c'est un style de comique totalement différent. Et cet agent anglais leur dit, mais venez donc en Angleterre, vous êtes encore célèbre, vous êtes encore admiré ici. Parce qu'il faut, pas se, faut bien se rappeler que l'Europe a été en guerre pendant 5 ans, et pendant 5 ans, les cinéphiles ont été privés de tout le cinéma américain qui a été tourné pendant ces 5 ans. Et donc, tout le monde a encore en mémoire la grande période de leur LRD des années 30. Ils n'ont pas encore vu les films catastrophiques tournés à la Fox et à la Metro. Donc, ils acceptent, ils viennent en 47 en Angleterre, et ils ont un succès phénoménal. Un succès qu'ils ne rencontrent déjà plus aux États-Unis. Donc, leur première tournée en Angleterre se situe en 47. Ils en refont une, enfin, 47, ça déborde sur 48 d'abord. Après, ils rentrent aux États-Unis, ils retournent en France pour Atolka, qui est, bon, n'en parlons pas, c'est une catastrophe elle aussi. Et puis, Delmont fait appel à eux de nouveau. Mais en 53-54, au moment où se situe le film, les gens en Europe ont vu les vieux films, les derniers films de Laurel Hardy. Et là, le succès n'est plus du tout au rendez-vous. Ce que montre le film au départ, parce qu'au départ, ils jouent, mais dans des salles pratiquement vides. Et puis, petit à petit, par la chaleur qui émane de leur personnalité, eh bien, ils attirent le public, et finalement, le succès redevient ce qu'il était à Londres, et puis à Cork, en Irlande, où ce sera le plus beau jour de leur vie, de la mémoire de Stan. Ils ont un succès phénoménal.
Alors, vous êtes donc l'auteur de ce livre consacré à Laurel et Hardy, La véritable histoire, édité par l'Archipel, Roland Lacourbe. Comment définir le comique de Laurel et Hardy? Parce que vous faites bien la différence entre Laurel et Hardy, d'un côté, et puis tous les autres de l'autre, hein, Charlie Chaplin, Buster Keaton. Vous dites que eux, ils venaient avec quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire le gag populaire, et qui n'avait pas du tout peur d'insister sur la répétition, le fameux running gag.
Oui, absolument. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans les années 30, il y a deux grandes écoles de comiques. Il y a Max Sanet, bien sûr, que tout le monde connaît, c'est-à-dire des films débridés, délirants, des cavalcades, des poursuites, des bagarres, à n'en plus finir. Et puis, il y a une autre école, beaucoup plus subtile à mon sens, c'est l'école Al Roach. Al Roach, c'est quand même le producteur qui a sorti Harold Lloyd. Et Harold Lloyd, c'est quand même quelque chose. C'est un monument, Harold Lloyd. Je crois qu'on commence à le redécouvrir maintenant. Mais Harold Lloyd, c'est pour moi l'égal d'un Keaton. Hein. Alors que pendant longtemps, Keaton a été considéré comme le génie et Harold Lloyd totalement méprisé. Ce que je n'ai jamais pu comprendre. Donc, Al Roach est un comique tout à fait différent, plus subtil que celui de Max Sennett.
En quoi il est différent et plus subtil que l'humour de Max Sennett?
Il insiste, enfin, si vous voulez, l'humour de Max Sennett est débridé. C'est la cavalcade dans tous les sens. On exagère tout, et on va même au-delà. Il y a aussi du mauvais goût dans Max Sennett. Al Roach, il y a une subtilité parce que on n'insiste jamais longtemps, on répète les gags, mais on n'insiste pas lourdement sur les effets. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Stan Laurel est à l'origine de l'humour de Laurel et Hardy. Il faut dire quelques mots du début de carrière des deux acteurs. Si Hardy a commencé au cinéma en 1913 et a tourné plus de 260 courts-métrages pendant 10 ans, jusqu'en 1926, année où ils vont se rencontrer, Laurel, lui, n'a tourné qu'une soixantaine de films. Mais, alors qu'Hardy était un acteur de complément, toujours, Laurel est très vite devenu une vedette. Dans les années 23-24, Joey Rock, qui était un producteur avisé, a produit 12 films qui sont les Stan Laurel Comedies. C'est-à-dire que Laurel est déjà un acteur qui pourrait continuer une carrière. Et certains ont dit que même s'il avait continué tout seul, il serait devenu l'égal d'Anne Chaplin.
C'est moi Laurel, c'est toi Hardy, c'est toi le gros et moi le petit.
C'est toi Laurel, c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Quand l'un y va, l'autre le suit, toujours ensemble, toujours unis.
On se dispute, mais qu'est-ce qu'on rit, nous sommes Laurel et Hardy.
Quand je fais une grosse bêtise, je me mets vite à pleurer, parce que j'ai peur de me faire disputer.
Quand tu fais une grosse bêtise, je me mets vite à crier, mais je t'ai vite pardonné, je ne suis pas rancunier.
C'est moi Laurel,
c'est moi Hardy,
c'est toi le gros
et toi le petit.
C'est moi Laurel,
c'est moi Hardy, et nous sommes de bons amis.
Voilà pour la version française. Quand le succès commence pour Laurel et Hardy, quand le duo prend forme, ils ne sont pas seulement acclamés à Hollywood, mais un peu partout dans le monde.
Oui,
alors, la courbe.
Il faut revenir un petit peu à cette période charnière qui est très très importante du muet au parlant. Bon, l'art muet, c'est un art absolument international. Il suffit de changer les cartons et puis finalement ça peut aller être compris en Angleterre, en Amérique, aux États-Unis, enfin en Italie, en France, partout. Lorsqu'on parle, se pose le problème de la langue. Alors, les premiers films, il faut se rappeler ça, c'est que pendant 3 ans, on n'a pas su quoi faire, on n'a pas su comment exporter les films américains. Et on a commencé à faire jouer les acteurs dans les langues où les films devaient être distribués. Ce qui bien que il y a une douzaine de films de Laurel et Hardy dans les années 30, en 1930 précisément, où ils jouent phonétiquement en français, en italien, en allemand, espagnol, eux-mêmes.
Voilà, oui.
Voilà. Et ça, c'est des documents extraordinaires. On peut en trouver dans les DVD qui sont en vente actuellement. Et ça, c'est vraiment très curieux. Et alors, ce qui fait que, dès 1930, Laurel et Hardy sont déjà connus en Europe et ils sont déjà très appréciés.
Alors, ils sont appréciés par tout le monde, ils ont un succès populaire, mais la critique ne suivra jamais Laurel et Hardy. Vous commencez d'ailleurs votre livre, oui, Roland la courbe, en rappelant que la critique a toujours sous-estimé, un peu comme la même critique américaine va être très dédaigneuse vis-à-vis de Jerry Lewis. Voilà, pour eux, Laurel et Hardy, c'était un peu le gag grossier, quoi. Visuel, grossier...
Oui. Ben, pratiquement tous les grands acteurs comiques ont subi comme ça cette négligence de la part de la critique, à part Chaplin. Ouais. Mais Chaplin, il y a toujours une dimension sociale qui fait qu'on s'intéresse beaucoup plus à lui. Mais c'est vrai que Laurel et Hardy, tout comme Keaton, d'ailleurs Keaton n'a été reconnu que dans les années 60, hein, pas avant, et en France. Et c'est la France qui a montré l'exemple, et finalement maintenant, Keaton est reconnu comme un grand acteur et un grand créateur, et comme l'est Harold Lloyd aujourd'hui, qui a été totalement méprisé pendant 80 ans.
Alors aujourd'hui, je rappelle, sort au cinéma Stan et Ollie, donc ce film qui raconte l'histoire de Laurel et Hardy à partir d'une année qui est l'année du déclin de Le Chant du Cygne. Alors la courbe, je reprends volontiers votre expression, parce que là, ils sont en train de tout perdre, ils vont tout faire pour revenir au devant de la scène dans leur tournée en Angleterre. Mais si on devait parler un peu de leur comique, hein, sachant que l'un écrivait et réalisait de temps en temps les films, l'autre pas du tout, hein. Donc c'est bien sûr Stan Laurel qui voulait écrire et qui rêvait de devenir metteur en scène et qui va continuer à écrire quelques scènes pour le duo, et puis Oliver Hardy qui lui s'est contenté d'être le génial comédien qu'il a été. Comment définir leur humour, leur gag aujourd'hui?
C'est bien difficile. Je me pose la question. Moi, je suis d'une génération où j'ai connu Laurel et Hardy dans les salles de spectacle, où lorsqu'on entendait la petite musiquette avec les lumières satanières, c'était la folie furieuse. Tout le monde était en joie. À l'avance, savait qu'elle allait apprécier un grand moment, que ça va être pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça va être une folle rigolade.
Bah oui, je suppose que c'était pas dans des salles d'art et d'essai.
Non.
C'était le cinéma populaire. C'était où d'ailleurs? Vous avez grandi où, Roland Lacour?
Dans le 14e arrondissement.
Et dans quelle salle de cinéma vous alliez voir les Laurel et Hardy?
Le Gaumont Palace, le Mistral, le Pernetti, ce genre de cinéma-là.
Est-ce que la critique française était tout aussi suspicieuse vis-à-vis du succès populaire de Laurel et Hardy?
Tout à fait. Oui, absolument. Les critiques ne s'attardaient pas beaucoup à analyser les courts-métrages. On parlait des longs-métrages. Alors, on a parlé de Chaplin parce qu'il a fait des longs-métrages. On a parlé des Marx parce qu'ils ont tout de suite tourné dans les longs-métrages. Mais en fait, Laurel et Hardy n'ont fait des longs-métrages qu'à partir de 1932-33. Et c'est pas le plus réussi. Alors, ce qui est curieux, c'est que finalement, un film comme Fra Diavolo, qui est un film, je dirais pas médiocre, mais enfin, assez faible dans leur œuvre, est considéré comme l'un des grands classiques maintenant de Laurel et Hardy.
Alors c'est bien sûr Stan Laurel qui va survivre à Oliver Hardy quelques années. C'est lui qui va être récompensé, puisque les dernières années, on leur donne des prix en reconnaissance de ce qu'ils ont fait, et puis aussi pour se rattraper, parce qu'on les a beaucoup oubliés entre-temps, on les a méprisés un peu, il faut le dire, à Hollywood. Le fait qu'il y ait aujourd'hui un nouveau film qui parle de Stan et Ollie, pour reprendre le titre du film qui sort au cinéma, le fait que les gens leur rendent hommage au détour d'une rétrospective à la Cinémathèque française consacrée au film de Léo McCarré, c'est quoi? On réhabilite un duo qui a été très longtemps sous-estimé, c'est...
Injustement méprisé, oui, tout à fait.
Ouais.
Je pense que c'est une... Vous savez, Hollywood est assez... a fréquemment fait ce genre de retour en arrière. Regardez Chaplin, qui a été totalement méprisé et qui a été la cible de la critique américaine pendant très longtemps, pour d'autres raisons que son œuvre, bien sûr. Mais il a été reconnu dans les années 70 seulement, peu avant sa mort. Donc, c'est tout à fait normal. Et ce que je dois dire aussi, c'est que on avait, dans les années 50, on pensait faire un film sur Laurel et Hardy. Du vivant de Hardy, même encore. Hardy est mort en 57. Et puis finalement, le projet a échoué. Et Laurel a toujours regretté que ça ne se soit pas fait.
Ils étaient très amis dans la vie?
Oui, tout à fait, oui.
Alors ça le film qui sort aujourd'hui le montre bien, Stan et Ollie. Ouais.
Tout à fait, oui. Ils se sont pas beaucoup fréquentés quand ils tournaient ensemble. Parce que bon, c'était Hardy est un passionné de golf. Il était d'ailleurs apparemment un champion. Il aurait tué un serpent à sonnette d'un coup de golf une fois. Et c'est lui qui raflait tous les prix à Hollywood. C'était le plus grand joueur de golf d'Hollywood. Non. Laurel, lui, pensait son temps à travailler. Quand le tournage était fini, il allait derrière sa machine à écrire et puis il écrivait des gags pour le lendemain. Et il a fait ça toute sa vie. Hardy, lui, à la fin de son travail d'acteur, il allait jouer sa partie de golf. Et donc, Hardy a toujours reconnu que Laurel était le cerveau du couple. D'ailleurs, Laurel était payé pratiquement le double de Hardy.
Et aujourd'hui, Roland Lacour, pour terminer, vous continuez à voir des Laurel et Hardy avec la même jouissance que vous aviez quand vous étiez enfant dans ces salles de cinéma du 14e arrondissement de Paris?
J'ai un œil un peu plus critique aujourd'hui, mais ce que je dois dire, c'est que pour revoir mon livre entier, j'ai revu tous les films de Laurel Hardy, parce que tous les films de Laurel Hardy, à part deux, sont disponibles.
Et alors?
Il y a des choses vraiment bien, des choses beaucoup moins bonnes. Ce que j'aime surtout beaucoup, c'est les courts-métrages muets, qui sont absolument remarquables. Et si je peux en citer deux, je citerai Double Whoopie, qui s'est appelé seul Son Altesse Royale en France, et qui est peut-être le catalogue de toutes les trouvailles typiques de Laurel et Hardy. Et puis dans les courts-métrages parlants, je citerai Bratz, Les Bons Petits Diables, où il joue à la fois les pères et les filles et les enfants et les fils, et avec des différences de taille suggérées par le décor. Et ça, c'est un petit chef-d'œuvre.
Et enfin, s'il fallait donner une bonne raison pour aller voir ce nouveau film qui parle de Laurel et Hardy, de Stan et Holly, pour reprendre donc ce titre.
Pour moi, le plus beau, le plus émouvant des films de Laurel et Hardy.
Pour vous, c'est un film de Laurel et Hardy, du
tout
coup.
À fait.
Il a été fait à la manière de...
Oui, oui, tout à fait.
Merci beaucoup, Roland Lacourbe, d'être passé.
Vous.
Stan et Holly, donc le film de John Baird, sort aujourd'hui au cinéma. Laurel et Hardy, la véritable histoire, c'est réédité par l'Archipel. Notre ami et éminent critique de cinéma, Michel Simon, du magazine Positif. Bonjour Michel.
Bonjour.
Est-ce que vous avez vu le film sur Laurel et Hardy, Stan and Holly?
Non, pas encore, mais je vais le voir pour Le Masque et la Plume en salle.
Ah oui,
j'aime bien voir les films en salle.
Mais ceci dit, c'est vrai que Positif ne doit pas trop aimer Laurel et Hardy, c'est pas...
Positif adore Laurel et Hardy, il a été en couverture de la revue.
Ouais.
C'est une revue qui a été formée par les surréalistes. Et donc tous les grands du burlesque, c'est bien Buster Keaton, que Chaplin, que Laurel et Hardy, que Harold Lloyd, que Larry Langdon, ont toujours, et les Marx Brothers, ont toujours été extraordinairement appréciés.
Sauf que Laurel et Hardy se sont démarqués des autres, des Charlie Chaplin, des Buster Keaton.
C'est-à-dire, il y a deux Laurel et Hardy. Il y a les Laurel et Hardy de l'époque du muet, qui étaient géniaux, et puis ensuite au début du parlant, et ensuite ils ont fait un peu de la soupe. C'est vrai que tout Laurel et Hardy n'est pas extraordinaire. On n'est pas au niveau de Keaton et de Chaplin, mais dans certains de leurs films, en particulier ceux dirigés par Léo McCarey, c'est prodigieux. C'est-à-dire le principe même du slow burn, ce qu'on appelle le slow burn en anglais, c'est-à-dire faire attendre les choses se passent très très lentement, on commence par envoyer une tarte à la crème, puis deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et ça grandit, etc. Tout ça avec une sorte de lenteur calculée, c'est eux qui l'ont inventé.
Et puis, pour parler de vos coups de cœur ce mois-ci, Michel Simon, qu'est-ce qui est en couverture du magazine Positive?
Alors, c'est le film de Jacques Anquet qui est sorti mercredi dernier, Les Éternels. Alors, on dit, la publicité dit que c'est le plus grand cinéaste, un des plus grands cinéastes au monde. Je la partage. C'est effectivement un des 10 ou 12 plus grands cinéastes aujourd'hui en activité. Comme beaucoup de cinéastes chinois, il a une vision très ample. C'est-à-dire, c'est un film de 2h20 qui couvre 20 années de la vie, en particulier d'une femme qui est Zhao Tao, qui est l'égérie, la femme, et qui a joué dans 8 films de Jia Zhongke, qui aurait dû avoir de la vie unanime le prix d'interprétation à Cannes, où le film n'a rien eu. Ce qui est vraiment très choquant. Et dans ce film, c'est l'histoire donc d'une femme qui vit avec un mafieux, et à un moment, il y a une rixe dans la rue, elle prend son parti, elle le défend, et elle est mise en prison pour port d'armes. Elle va purger 5 ans de prison, en fait, à la place de son amant. Et ensuite, elle le retrouve. Donc, c'est à la fois une histoire...
Elle le retrouve dans une autre Chine, une Chine complètement acquise à un nouveau capitalisme spécifique.
Voilà, c'est-à-dire que c'est en même temps une fresque sur l'histoire de la Chine sur 20 ans, et en même temps une histoire d'amour individuel. Et c'est absolument magnifique. D'ailleurs, dans Positif, nous avons non seulement interviewé Jia Zhongke, mais également Zhao Tao, son épouse, qui parle merveilleusement bien de son travail avec lui.
Les Éternels de Jia Zhongke à retrouver au cinéma. Et puis votre... coup de gueule, si j'ose dire, Michel Simon, c'est pas pour un film, mais pour une cérémonie. Alors, pas les Oscars, puisque vous êtes plutôt content du palmarès des Oscars, et un peu moins...
Je suis surtout content pour Roma.
Oui, bien sûr. Et un peu moins pour les Césars. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Césars?
Non, les Césars, je suis pas du tout mécontent des grands prix qui ont été donnés. J'aime beaucoup le film de Audiard, et j'aime beaucoup Jusqu'à la garde. Donc c'est deux prix tout à fait respectables. Non, c'est la création l'année dernière, et récidivé cette année, du prix du public qui a été décerné aux Tuches. Ce sera le prix au film qui aura eu le plus d'entrées. Alors d'abord, les Oscars à Hollywood ont refusé cette proposition en disant, pourtant l'Amérique c'est le pays de l'argent. en disant l'argent n'a rien à voir avec la qualité des films. C'est pas parce qu'un film fait 14 millions, 20 millions, 100 millions d'entrées qu'il est le meilleur. Mais moi, je conteste le fait que ce soit le meilleur film pour le public. Le fait que les gens y soient allés en masse ne veut pas dire qu'ils le considèrent à la fin de l'année comme le meilleur film qu'ils aient vu. Ils ont été parce qu'ils sont fatigués par le boulot, ils ont envie de se détendre entre copains, de boire un verre après, ils savent qu'ils vont bien rigoler avec les tuches. Mais si vous leur demandez ensuite, vous avez vu le film d'Audiard? Ceux qui l'ont vu diront, bah oui, mais le film d'Audiard, c'est autre chose que les tuches. Ils le savent. C'est du mépris pour le public. C'est du mépris pour les gens de penser que parce qu'ils y vont en masse, ils ont trouvé que c'était le meilleur film de l'année. Donc, je conteste ce César. Mais je voudrais tout de même ajouter sur les films que vous questionnez. Bien sûr, j'ai adoré Les Éternels, mais il y a d'autres grands films qui font le sujet de ce numéro de positif. C'est le Sunset de Laszlo Demetz, le film hongrois. Et puis, Dernier amour de Benoît Jacquot. Et un grand dossier sur Lee Jang-dong, le grand cinéaste de Burning.
Merci d'être passé ce matin, Michel Simon. On vous retrouve le mois prochain.